Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous. Émission en direct réalisée par Mohand Maarouf. Et mon invité s'appelle aujourd'hui Caroline Dorcafenec. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Votre deuxième roman est sorti il y a deux jours, il s'appelle Tempête et brouillard aux éditions de La Martinière dans la collection Ruby. À quoi le titre de votre livre fait-il référence ?
Eh bien, c'est une citation du Roi Lear de Shakespeare. Et c'est un moment dans le Roi Lear, il entre en fureur contre sa fille, qu'il va déshériter, l'une de ses filles, et il lui jette cette malédiction. Voilà.
Tempête et brouillard sur toi, que les incurables blessures de la malédiction d'un père déchirent tout ton être en tous tes sens.
Oui.
Shakespeare, c'est le roi de la tragédie ? Pour vous ?
Oui, un des rois de la tragédie. Oui, en tout cas un dramaturge qui me touche beaucoup.
Alors après, vous êtes intéressé aux relations mère... fils, vous vous intéressez aux relations père-fille. Et vous continuez à interroger d'une certaine façon votre histoire familiale. C'est ce que vous nous expliquez en début du livre. Hein. Vous vous êtes inspiré pour écrire ce livre de conversations que vous avez eues avec votre papa, de conversations téléphoniques.
Oui.
Pourquoi téléphonique et pas en vrai ?
Alors, parce qu'on se voyait très peu, tout simplement. Disons que le livre est vraiment... né à sa mort, hein, faut peut-être expliquer ça. À la mort de mon père, j'ai eu le déclic, l'envie d'écrire ces livres. Et c'est vrai que je me suis inspirée de ces conversations. On avait beaucoup de conversations téléphoniques parce qu'on se voyait très peu, et surtout parce que à sa retraite, il a décidé de partir au Maroc, et c'est ce que je raconte, alors que moi j'habitais encore en France. Et donc évidemment, la seule façon de rester en lien, puisque moi je n'y allais pas, c'était de se parler au téléphone. Oui.
Alors, faut expliquer pourquoi votre père décide de retourner.
Oui.
Parce que le mot est important.
Retourner
au Maroc.
Oui, tout à fait. Alors, quand même, je veux quand même expliquer que je m'inspire de ces conversations. Néanmoins, j'écris quand même un roman. D'accord. Donc le personnage du père, c'est vrai, s'inspire de mon père. Néanmoins, j'en ai créé un personnage. Donc oui, il décide de retourner au Maroc. Alors, au moment de sa retraite, alors il choisit pas le Maroc par hasard. Ça, c'était évident. Il est né au Maroc. Donc, il est né au Maroc en 1940, à Casa. Ses parents, eux-mêmes, d'origine espagnole, étaient nés au Maroc. Et il y a vécu jusqu'à ses 16 ans, hein, jusqu'à 56, jusqu'à la fin du protectorat. Et jusqu'à ce qu'il soit rapatrié en France. Et il n'y a jamais remis les pieds, hein, vraiment. Il n'est jamais retourné au Maroc. Il en parlait un peu, mais très peu. Ça avait très peu de présence dans notre vie, finalement, dans notre vie familiale. Il y avait quand même un lien parce que tous les dimanches, il y avait ce rituel de on mange un couscous, on mange des pâtisseries arabes. Il y a quand même un lien. Il y a quand même ce lien-là, mais il est très superficiel, je veux dire.
Mais il est important, c'est structurel.
Oui, mais il est important parce que ça ancre quand même quelque chose. Ça ancre quand même quelque chose. Mais il nous parle. Ce que je veux dire, c'est qu'il en parlait pas plus que ça. Et surtout que, c'est-à-dire ce qu'on sentait surtout, c'était que son retour, lui, il connaissait pas la France avant d'arriver à 16 ans. Hein. Mais
son arrivée à Nice, c'est marqué
d'un traumatisme puisque son père, lui, en revanche, n'a pas supporté ça et il en est mort de chagrin. Parce que l'arrivée en France s'est associée pour lui à un déclassement, des enrichissements, et aussi ils ont été comme ça en proie au racisme, hein, parce que ils avaient un nom en plus hispanique. C'était d'origine espagnole.
Il avait un nom hispanique. Oui. Il avait un accent.
Un accent pied noir qu'il a gardé d'ailleurs tout le temps, mon père. Voilà. Mais alors donc. Il prend sa retraite, il a d'abord un cancer, il manque de mourir, et il décide de changer de vie, et il décide de prendre sa retraite au Maroc. Alors pas par hasard, parce que donc c'est sa terre natale, ça c'est évident, mais c'est pas que sa seule motivation. Hein. Il a vu aussi qu'au Maroc offre des conditions fiscales vraiment très très privilégiées pour les retraités français. Donc lui, qui est un homme qui a une carrière de 40 ans dans une grande entreprise, qui a commencé employé, qui a gravi les échelons petit à petit, il a terminé cadre. Il a une retraite moyenne. C'est pas un homme excessivement riche, mais il s'imagine qu'avec les conditions fiscales octroyées aux retraités français par Mohamed VI, plus évidemment, le niveau de vie qu'il pourra avoir au Maroc, où tout est moins cher par rapport à sa retraite, il s'imagine que là-bas, il aura sans doute l'existence de petits nababs qu'il a toujours rêvé d'avoir et dont il s'estime avoir droit. Donc voilà, c'est ça ses motivations.
Oui, d'avoir une belle vie au soleil, hein, faut dire la vérité.
Exactement.
On mange bien.
Au soleil, avoir une maison.
Ouais, il y a beaucoup de retraités qui ont fait ce choix d'ailleurs.
Énormément de retraités qui y vont en plus pour
parce
un retraité.
Ils ont des petites retraites hein, en plus. Hein, parce que...
Oui, ils ont des petites retraites. Et si vous voulez, le Maroc, il y a aussi le côté. Là-bas, on parle français. On parle français. Hein. Lui, ce qu'il dit, hein, sa phrase, c'est ça parle français là-bas, j'ai pas besoin d'apprendre l'arabe. Hein.
Parce que votre père ne parlait pas arabe.
Non. Son père, lui, évidemment, couramment, est espagnol. En fait, ses parents lui parlaient principalement français et espagnol, mais pas l'arabe.
Dans votre famille, qui c'est qui a fait le voyage pour aller au Maroc? C'était votre grand-père ou c'est la génération d'avant?
C'est la génération d'avant. Les arrière-grands-parents, en fait, étaient partis de l'Andalousie pour faire du commerce de cheval avec d'abord la Tunisie, avec l'Algérie. En fait, ils étaient d'abord à Oran. Et ensuite, ils sont allés.
Oran,
et ensuite,
il y avait énormément d'Espagnols.
Et oui, c'est ça. Exactement.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Et en fait, moi, mon grand-père, si je les fais vrai, il est né à Oran. Voilà, lui.
D'accord.
Ouais.
Bon, c'est la frontière, de toute façon.
Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'était, oui, voilà, sur plusieurs générations. Ouais. Et ils ont fait le choix de la nationalité française, en fait, pendant la guerre. Si mon grand-père s'est engagé, alors lui, pendant la première guerre, parce qu'il était plus âgé, il s'est engagé dans l'armée française, en fait, il a fait ce choix-là d'être français à ce moment-là, en fait.
En 14, quoi.
Oui. Ouais. Un peu plus après. Ouais.
Cette histoire familiale, vous la connaissiez ou vous l'avez vous êtes réconcilié avec cette histoire à la mort de votre père et vous l'avez interrogé cette histoire?
Je la connaissais par bribes parce qu'en fait du côté maternel aussi il y a une histoire pinoire, mais du côté tunisien cette fois-ci. Côté là, le voyage c'était de la Sicile à la Tunisie, donc j'ai toujours on a toujours eu cette histoire-là de savoir que j'ai des parents qui sont pieds noirs et voilà. Mais c'est vrai que je l'avais pas interrogé plus que ça jusqu'à ce que je décide moi d'aller au Maroc à l'invitation d'une amie en fait qui s'était installée à Tanger. Et donc je suis allée de nombreuses fois en fait au Maroc la voir. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte. Enfin, c'était en arrivant au Maroc que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'extrêmement familier. C'est très frappant en fait.
Ça frappe. Oui. Vous saviez que c'était.
Ouais. Parce que même, si vous voulez, oui, pour l'anecdote, par exemple, j'étais à Tanger et j'étais comme ça avec elle dans les souks et tout ça. Et un jour, j'ai vu le sosie de mon père, un Marocain qui ressemblait exactement. Mon père ressemblait un petit peu à Idir. Vous savez, le chanteur Idir. Bien sûr, vous savez. Et il avait un peu ce physique-là et je l'ai vu. Et tout à coup, ça m'a frappé. Ça m'a vraiment frappé à ce moment-là. Je me suis dit, mais bon. C'est familier. Voilà, il y avait quelque chose de familier.
Alors, votre héroïne, la narratrice s'appelle Karina.
Oui.
Elle comprend pas pourquoi il va à Marrakech. Elle aurait dit, oui, bon, déjà le Maroc, il va jamais y aller. Mais alors, pourquoi Marrakech alors que... pourquoi il va pas à Casa? Pourquoi il va pas à Tanger? Pourquoi, pour elle, Marrakech, c'est pas le vrai Maroc?
Ah si, mais en fait, elle déteste cette ville. Elle a un souvenir traumatisant déjà dans cette ville, qui est une rupture amoureuse déjà, première chose. Donc déjà, elle a décrété que Marrakech, c'était maudit. Et puis, il y a quand même... c'est une ville quand même très grouillante, très violente, très touristique. Hein. Vraiment, quand on y va, quand on est touriste, hein, je veux dire, là-bas, oui, et qu'en plus, on y va, je veux dire, on se prend ça quand même, c'est une ville, qu'elle n'a pas, elle, en tout cas, trouvé agréable. C'est-à-dire, voilà, elle ne s'est pas immergée avec autant de plaisir là que, ben oui, dans le nord du Maroc ou dans d'autres villes qu'elle a pu visiter au Maroc.
Alors, j'ai appris un terme juridique en lisant votre livre, le mot exhérédation. Shkoun. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, d'ailleurs, c'est toute l'histoire du livre, hein,
oui.
Parce que je raconte une histoire.
Oui.
Alors, exhérédation, c'est l'acte de déshériter quelqu'un. L'acte de déshériter quelqu'un. Parce que le mot déshéritage n'existe pas, en fait.
Ah oui?
On pourrait croire, oui, on l'emploie, mais je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Il ne se trouve pas.
D'où ce nom barbare.
Exactement.
Exérération.
Mais je trouve que c'est un mot barbare, mais oui, parce que finalement, le mot en lui-même, les sonorités, comportent en elles-mêmes, je dirais, la violence de l'acte, en fait. Hein. Oui.
D'où le roi Lear.
Oui, d'où le roi Lear.
Ouais. Est-ce qu'on peut déshériter ses enfants?
Alors.
En France, la loi ne le permet pas, hein.
Non.
Techniquement, on ne peut pas déshériter complètement ses enfants.
Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment, enfin, dans la loi, enfin, normalement, hein, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui est que on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent récupérer un héritage en droit, d'accord, s'ils s'estiment lésés à cause de cette réserve héréditaire. Ça, c'est la loi française. Mais donc, ce dont on a fait l'expérience, c'est que cette loi française, en fait, ce n'est pas une loi internationale. Chaque pays, et ce n'est pas une loi, donc manifeste. Donc voilà, est-ce que ça peut être une loi universelle? Est-ce que c'est une loi qui repose sur une morale universelle? Est-ce que c'est une loi bonne? Tout ça, on s'interroge dans la mesure où bah, elle n'existe pas partout, cette loi. Donc elle n'est pas aussi évidente que ce qu'on pourrait le croire. Mmh.
Qu'est-ce que ça fait quand on apprend qu'on est déshérité par son propre père dans votre livre? C'est pas lui qui lui dit, hein, qui a déshérité ses enfants, ils finissent par la prendre. Hein. Qu'est-ce que ça fait quand on apprend qu'on est déshérité par son père?
Alors, je tiens quand même à préciser qu'on parle d'un milieu qui est la petite classe moyenne. Donc la narratrice, elle est déshéritée d'une somme qui correspond à 60 000 euros. Je la donne cette somme parce que elle est obsédée par cette somme et je pense qu'il faut donner les vrais chiffres à un moment. Il faut être, c'est dans mon écriture, je pense que je suis extrêmement concrète. Donc c'est pas un héritage qui aurait permis à la narratrice de devenir une rentière et tout à coup de vivre sur des rentes et d'entrer dans l'extrême richesse. Donc, c'est une somme importante, bien sûr, mais ça se joue là au niveau symbolique, surtout. Ce qui se passe, c'est elle, en tout cas, la façon dont elle reçoit cette nouvelle, c'est qu'elle a juste l'impression d'être effacée, d'être complètement effacée, en fait, d'une lignée, en fait, d'être éradiquée de l'histoire familiale, de l'histoire de son père.
Et dans le livre, oui. et dans le livre, elle a besoin de lui entendre le dire.
Oui. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'elle l'apprend, par la bouche d'un de ses frères. Et oui, alors que en général, c'est toujours son père qui l'appelle. C'est comme ça les rituels. Hein. Son père l'appelle. Là, elle a besoin de l'appeler pour la franchise, pour être sûre. Elle a besoin de la preuve. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que c'est tellement sidérant de l'apprendre, même si elle s'interroge, est-ce que j'ai été une bonne fille, hein? Voyez, la référence au roi Lear arrive à ce moment-là, hein? Est-ce que je l'ai mérité? Néanmoins, il lui faut une preuve. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a d'abord un état de sidération, en fait. Et surtout, si vous voulez, qu'à ce moment-là, quand elle l'apprend, elle n'avait jamais réfléchi à l'héritage, au mot héritage. C'est-à-dire que toute sa vie, son père lui a dit qu'il n'était pas riche, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est obsédé par l'argent, il est obsédé par le fait de faire beaucoup d'économies. Donc elle s'imaginait même pas qu'à la mort, déjà, bon, son père n'est pas mort, donc elle ne pense pas à la mort de son père. Je veux dire, c'est quand même, elle n'en est vraiment pas là dans sa vie à penser à la mort de son père. Donc encore moins à la notion d'héritage. Mais à partir du moment, parce que son père donc la déshérite de son vivant, hein, il faut le dire.
C'est quand on apprend qu'on est déshérité par son père de son vivant.
C'est
ça qui est violent émotionnellement, en fait.
C'est ça, voilà. Parce que, donc il faut quand même donner la raison de ce père, hein, parce qu'il veut privilégier la femme qu'il a épousée au Maroc. Il a des raisons qu'on pourra développer tout à l'heure, hein, il a tout à fait des bonnes raisons.
Il a 35 ans de moins que lui.
Oui, qui a l'âge de sa fille, exactement, qui a l'âge de Karina. Et donc oui, elle apprend déjà, elle apprend même le terme d'héritage. Enfin, je veux dire, tout lui arrive en même temps, en fait. C'est voilà. Et donc c'est vrai qu'elle le vit. C'est comme un gouffre, en fait, qui s'ouvre, en fait. Et donc elle revit des abandons. Elle revit l'abandon de sa mère. Elle revit beaucoup de choses, en fait. Ça la ramène à beaucoup de violence enfantine.
Émotionnellement, il y a tout qui remonte, en fait.
Oui, c'est ça. Il y a tout qui remonte.
Et c'est violent, et c'est très très violent.
Ouais, c'est très violent.
Vous dites que vous écrire, c'est à la fois une expérience qui est émotionnelle et spirituelle.
Oui, c'est vrai. Alors, émotionnelle, parce que c'est, on écrit avec ses émotions, on éprouve, on les observe aussi. Observer les émotions, les comprendre, c'est quand même apprendre à se connaître. Les émotions sont une source de connaissance. Hein, si vous éprouvez de la peur, bah, ça vous apprend qu'il y a un danger quelque part. C'est pas rien, les émotions. Il faut les observer, faut les connaître. Par exemple, pour parler d'une émotion forte, qui est la peur. Et spirituel, oui. Parce que, il y a quand même, l'idée qu'écrire, c'est aussi se explorer, explorer une part, oui, une part spirituelle, une part qu'on connaît pas, qu'on explore, une part de l'esprit qui est peut-être un peu cachée, et aussi la spiritualité. Moi, je la conçois aussi comme une connexion, c'est-à-dire ce qui va nous me permettre, en tout cas moi, de me connecter à quelque chose, en tout cas qui est de l'ordre de ce que j'ai, ce que je ne connais pas encore.
Et on en parle ce matin jusqu'à 13h, c'est votre book club à l'occasion de la sortie de votre deuxième roman, ça s'appelle Tempête et brouillard aux éditions La Martinière.
Le book club revient dans un instant, midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est le book club aujourd'hui de Caroline Dorcafenet qui vient nous parler de son deuxième roman qui s'appelle Tempête et brouillard aux éditions La Martinière. Vous sortez un deuxième livre après un premier livre qui a connu un grand succès. On dit toujours que le deuxième livre, c'est le plus difficile à faire. C'est pas le premier. Vous êtes allé chercher dans le disque dur de votre ordinateur pour reprendre une histoire que vous avez commencée, ou vous l'avez commencée après l'écriture du premier ?
Non, je l'ai commencé après l'écriture du premier. J'envisageais d'écrire un tout autre livre après le premier. Et celui-ci s'est imposé. Tempête et brouillard s'est imposé vraiment malgré moi. Il est arrivé. Il fallait que j'écrive celui-ci. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus difficile ? Le premier était déjà très difficile à écrire, vu que j'ai mis 10 ans à l'écrire. Donc, c'était... bon, il a fallu que je traverse beaucoup de choses. Le deuxième... oui, enfin, il a fallu que j'aille chercher très profondément en moi pour l'écrire, donc je ne vais pas dire que ça a été aisé à l'écrire.
Un mot sur votre nom d'auteur. Caroline, c'est votre prénom.
C'est mon prénom de naissance.
Dorca.
C'est un pseudonyme que j'ai choisi. Et à partir d'un mot arabe qui veut dire maintenant. Mmh. Maintenant. Et Fenech, si on décompose tout, c'est le nom de mon époux et de ma fille. Mmh.
Je dis ça parce que la narratrice, hein, elle décide enfin de d'écrire son livre et elle dit « je l'écrirai du nom que j'ai choisi ».
Oui, c'est important.
Presque une provocation pour son père.
Oui.
Comme une provocation.
Oui. Bah, comme si elle, quelque part, elle le déshérite, quelque part. Enfin, elle rompt l'héritage, elle rompt, en fait, le lien complètement, oui, en changeant le nom, en décidant de... C'est-à-dire qu'à la fin, elle a besoin de se réapproprier qui elle est, elle. Et elle décide, oui, cette rupture-là.
Donc, elle se réapproprie qui elle est, mais est-ce qu'à la fin, elle sait qui son père est ?
Non. Elle ne sait pas qui est son père. Elle ne sait pas qui est son père qui lui a lancé comme ça d'ailleurs une énigme avant de mourir qu'elle n'a jamais pu résoudre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où donc on a compris que les relations entre Karina et son père sont extrêmement conflictuelles. Et
il y a des hauts et des bas quand même.
Il y a des hauts et des bas. Voilà. Et des bas. Bon. Oui, c'est un père. Qui a quand même été très présent pour elle quand elle était enfant, vu que la mère, en fait, est partie. Donc lui, il a élevé sa fille, elle avait 6 ans, elle.
Et ses deux frères.
Oui.
Voilà. Donc, qui étaient un petit peu plus âgés quand même.
Oui, voilà. Donc
mais la mère, elle s'en va du jour au lendemain.
Voilà. Oui, elle s'en va. Et donc,
et elle s'en va pourquoi?
Alors, le
parce
livre.
On comprend qu'il y a une trahison dans le livre.
Alors, le livre ne l'explique pas. Pourquoi elle s'en va? Pourquoi le livre ne l'explique pas? Parce qu'on est vraiment du point de vue de l'enfant quand ce souvenir ressurgit. Quand Karina se souvient de cet abandon, je dirais qu'il y a un abandon primitif pour elle, qui est presque une scène primitive. Elle se souvient du jour où sa mère quitte le foyer familial sans rien dire. Donc, la mère ne dit rien des raisons de son départ. Donc le livre ne l'explique pas. On est vraiment du point de vue de l'enfant, du point de vue de Karina. Et c'est vrai que ça, ce départ-là, cet abandon primitif, c'est déjà un gouffre d'incompréhension, un gouffre de mystère qui va se reproduire de nombreuses fois en fait dans la vie de Karina. Elle va se retrouver de nombreuses fois face à comme ça des interrogations, des gouffres. Et le père est une énigme qui lui lance à la figure un jour de grandes disputes. Et il lui dit voilà, en gros, hein, je ne vais pas reprendre exactement, mais voilà, vous me haïssez, toi et tes frères, mais vous verrez qu'à ma mort, vous découvrirez qui je suis. Et il lui lance ça. Et ça, mais sans rien dire d'autre. Alors déjà, ça crée une attente hallucinante, quoi, chez Karina. Mais qu'est-ce que je vais découvrir à sa mort? C'est obsédant. Donc il y a plein d'hypothèses qui arrivent. Est-ce qu'il, justement, hein, est-ce qu'il a une double vie? On en parlait pendant la pause. Est-ce qu'il a d'autres enfants? Qu'est-ce que je vais découvrir? Est-ce que je vais découvrir que c'est un criminel? Enfin, je veux dire, il y a tout qui là, il y a toutes les, tout est possible.
Il y a tout le champ des possibles.
Ah oui, tout est possible. Donc à la mort, la première, quand le père meurt, vraiment longtemps après, de nombreuses années plus tard. Bah, la première question que se pose Karina, c'est bah voilà, qu'est-ce que je vais découvrir maintenant? Qu'est-ce que je vais découvrir maintenant? Parce que elle s'imagine que son père a dû laisser quelque chose à leur attention vu qu'il a lancé ça. Sauf qu'il n'a rien laissé du tout à leur attention. C'est juste une phrase comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et il y a un moment, elle se fait l'hypothèse quand même. Elle a une hypothèse, elle me semble assez juste. Hein. C'est que, en fait, ce qu'il a voulu dire, sans doute, c'était qu'il n'était pas aussi mauvais que ce que ses enfants l'imaginaient. Et qu'il avait aussi de la bonté en lui. C'est sans doute ça qu'il a voulu dire. Ouais.
Alors écoutez un premier extrait, Mande à la régie ce matin, extrait d'une série France. Alors c'était Antenne 2 à l'époque. Hein. Antenne 2, c'était le début des années 80, Mande. On va écouter le générique.
On a le don ou on l'a pas. C'est un métier qu'on n'apprend pas. Comment on devient un papa? Plus papa que tous les papas.
Un papa cool.
Un papa cool.
Le papa des super papas.
Matin et soir.
De nuit, de jour.
Papa de toujours, chaque jour. T'as eu un papa cool.
Bon, c'était papa poule. Vous savez qu'il a beaucoup de similitudes, l'acteur principal de cette série, avec votre père.
Oui, mais c'est bien pour ça que mon père se décrétait oui. Papa Poule.
Il est né à Casa.
Ouais.
Il est né à Casablanca. Dans les mêmes années quasiment que votre père.
Ah, il y a une identification directe. Ah oui, oui. Ouais, ouais.
Parce que votre père, lui, se voyait comme un papa poule, en fait.
Oui, mais bon, par certains côtés, il l'était quand même.
Se retrouver quand même à élever trois enfants c'est-à-dire alors que sa femme est partie en bas âge.
Bon. C'est-à-dire qu'il faut se resituer dans le contexte des années 80. C'est-à-dire, voilà, il y a quand même une révolution qui s'opère à ce moment-là, qui est que les femmes prennent de plus en plus leur indépendance, d'accord, et les hommes commencent à investir leur paternité d'une façon qui est un petit peu inédite. D'accord. Donc évidemment, à cette époque-là, c'est encore plus saillant. Si vous voulez, la norme, quand il y a un divorce, la norme absolue, c'est que c'est la mère qui garde les enfants. Je veux dire, moi, quand tous mes amis d'enfants divorcés, c'était ça, hein, la norme.
Oui.
Bah oui. D'ailleurs, voilà. Et donc, si vous voulez, là, comme c'était l'inverse, c'est le père qui garde les enfants. Vous voyez, c'était vraiment inédit. Donc il y avait une espèce d'héroïsation de sa part de voilà, il aimait bien avoir comme ça de rappeler à quel point il avait été héroïque en fait d'endosser ce rôle. Ouais.
Alors on n'a pas été très clair tout à l'heure pour l'histoire de l'héritage, mais votre le père de l'héroïne quand il va au Maroc se remarie avec oui. une Marocaine et est obligé de se convertir et votre héroïne se demande en quoi ça consiste de se convertir et finalement si ça va le changer.
Oui, alors évidemment il y a cette loi hein, au Maroc qui est que une femme marocaine, donc nécessairement musulmane, hein, ne peut pas épouser un homme non musulman. C'est pas la loi ne le permet pas. Et d'autre part il y a une autre loi hein, qui fait qu'on ne peut pas vivre en couple si on n'est pas marié. Donc il y a ces deux lois là. Donc mon père rencontre une femme jeune, de l'âge de sa fille, hein, décide de l'épouser, enfin après en avoir rencontré de nombreuses avant. Et bon, voilà, tombe amoureux d'elle et décide de l'épouser. Et donc, évidemment, il est obligé pour se faire de se convertir. Et lui, il présente ça comme une formalité. C'est vraiment le mot. D'accord ? Parce que c'est vrai que elle, le mot conversion est quand même très fort, se convertir. Donc elle, en plus, elle est complètement athée, hein, Karina. Hein, elle est athée, elle est laïque. Elle s'est fait baptiser elle-même à 13 ans, mais sans grande conviction. Hein, c'est parce que les sœurs, les religieuses de son collège l'ont amenée au baptême. Mais bon, voilà, c'était pas une grande conviction. Mais néanmoins, voilà, elle a été éduquée, disons, dans une culture chrétienne, on va dire, avec une grand-mère qui était obsédée par Jean-Paul II, etc. Bon, se convertir, c'est quand même un acte, pour elle en tout cas, hein, très fort. Mais lui, il lui dit non,
c'est un acte banal.
C'est un acte banal, ouais. C'est une formalité. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il lui dit ça que ça ouvre des gouffres d'interrogation chez elle, en fait. De se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de se convertir?
Mais... après tout, est-ce qu'un homme de 65 ans, qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé ses enfants, est-ce qu'il n'a pas le droit de choisir sa vie, la vie qu'il veut mener ?
Bien sûr, bien sûr. Ben, je pense que c'est pas tellement ça qu'elle interroge.
Je veux dire, à la limite, c'est sa vie, il est à la fin de sa vie, il a envie de profiter de sa retraite.
Oui, mais en fait, je pense que c'est pas ça qu'elle remet en question. Elle juge pas ça, elle juge pas le fait qu'ils aient une grande différence d'âge, ça peu importe. Hein, que ce soit, voilà, elle juge pas ça. Non, ce qui se passe, c'est que on a un personnage qui est dans une fragilité de cette relation, qui est dans un grand manque d'amour et dans un grand, dans une grande peur de l'abandon, on va dire. Elle a une grande peur de l'abandon. Elle est marquée par ça. Et ce qu'elle interroge, c'est ça. C'est mon père est encore en train de m'abandonner. C'est plus ça en fait, ce qui se passe en elle.
Mais elle lui court pas après. Elle va pas le voir au Maroc, par exemple.
Elle peut pas. Alors, elle a des grands blocages psychologiques avec son père parce que c'est toute la relation ambivalente qu'elle a avec son père, en fait.
Il lui inspire un dégoût physique.
Voilà, il lui inspire un dégoût physique absolu.
Qu'on peut comprendre, on comprend dans le livre, on comprend, voilà. On comprend pourquoi.
Voilà, et on comprend pourquoi à un moment donné. Ouais.
Mais c'est ça, c'est toute cette relation. Donc lui, il part, il lui dit, mais viens me voir. Et il demande sa présence. Hein.
Oui, mais oui, il est même désespéré de sa présence. Parce qu'en fait, il n'a cessé de dire à sa fille qu'elle était la fille préférée, qu'elle était la fille chérie, que c'était sa petite chérie, etc. Donc il n'a cessé, en fait, de lui dire qu'il l'aimait. Sauf que, y a quelque chose qui fait que Karina, elle, en doute. Et c'est ça, en fait, le grand gouffre aussi de ce personnage. C'est douter de l'amour de son père. Tu me dis que tu m'aimes, mais voilà ce que tu as fait quand tu étais enfant. Parce que voilà, papa poule, ma fille chérie, etc. Ça, c'est un versant de l'histoire. Mais il y a un autre versant que lui cache et que elle connaît, puisqu'elle l'a vécu.
Oui, c'est la grande. Ça, c'est le principe des histoires familiales.
Voilà, c'est ça.
Voilà, il y a la version qu'on sert à tout le monde.
Exactement.
Et ce que l'extérieur voit.
Voilà. Est-ce qui a été vraiment vécu, et en l'occurrence, de violence?
Mais si elle était allée le voir au Maroc, vous pensez qu'elle n'aurait pas été déshéritée? Ça aurait changé quelque chose ou pas, finalement? Ou la décision était prise dès le départ?
Alors, moi, je vais vous dire, je pense que ça n'aurait rien changé. Dans la vraie vie, je suis allée voir mon père, moi. Ok, ça n'a rien changé. Vous voyez, je peux vous répondre facilement.
Pourquoi? Pourquoi finalement ça n'a rien changé? Il avait pris sa décision.
C'est une décision qui, si on se place de son point de vue à lui, était altruiste en fait. C'est-à-dire que je pense au final qu'il s'est pas rendu compte de la violence que c'était, de la violence que ça allait engendrer. Je pense sincèrement qu'il s'en est pas rendu compte. Dans l'histoire, en tout cas, il s'en rend pas complètement compte. Je pense qu'il s'en rend vraiment pas compte. D'ailleurs, c'est ce qu'elle comprend, Karina, sans doute, à la fin, quelque part.
Oui, parce qu'il dit, de toute façon, je vous ai déjà tout donné.
Voilà. Et Karina finit par accepter ça, finit par le comprendre, ça, que finalement, il s'est pas rendu compte de la violence que c'était. Donc, en fait, quand il a dit ça, c'est pour... en fait, protéger sa femme, à qui il a demandé d'arrêter de travailler, et qui risque de se retrouver démunie au moment de sa mort. Donc, il décide de la protéger, donc de lui donner le seul bien qu'il possède, hein, c'est-à-dire la maison qu'il a achetée au Maroc, une maison. Voilà. Mais lui, dans son esprit, si vous voulez, il a deux fils qui sont dans une situation matérielle extrêmement confortable. Lui-même n'a pas reçu d'héritage, étant donné que son père est mort complètement ruiné, ça l'a pas empêché de faire sa vie. Donc lui, il ne voit pas le problème, en fait. Il ne voit pas le problème symbolique. Vous voyez? Donc il se dit, c'est pas l'argent qui va changer votre vie, de toute façon. Il se pose, de toute façon, c'est un matérialiste, cet homme. Il se pose que d'un point de vue matériel, en disant, de toute façon, c'est pas si je vous donne ces 60 000 euros, là, ça va pas changer votre vie. Mais en fait, il a raison, en vrai, matériellement, d'un point de vue matériel.
Il n'y a pas suffisamment d'argent pour que ça change...
Voilà, que ça bouscule complètement une vie, quoi. Enfin, faut voir, ça se discute. Mais bon, en tout cas, lui, c'était son raisonnement. Donc, je pense que ce père-là n'a pas conscience du mal qu'il ouvre, enfin, du mal que ça provoque.
Fait,
ouais, il n'en a pas conscience du tout.
Ouais.
Donc, là, elle y va pas parce qu'elle est, elle a ce grand blocage physique et de dégoût et cette grande colère en elle. Donc, elle ne peut pas y aller par colère en fait. C'est une colère qui défigure. Mais lui, de son point, si on se place de son point de vue, la décision a été prise parce qu'il ne s'est pas rendu compte de la violence que c'était.
C'est le book club de Caroline Dorca-Fenech aujourd'hui. Et on parle de son deuxième roman qui vient de sortir, ça s'appelle Tempête et brouillard, aux éditions de La Martinière.
Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et c'est le book club aujourd'hui de Caroline Dorca-Fenech qui publie Tempête et brouillard aux éditions La Martinière. Vous avez une double formation à la fois littéraire et de cinéma. Vous lisiez des scripts que vous corrigiez à une époque et donniez votre ami, votre avis, vous en lisiez beaucoup?
J'en lisais à peu près 4 par semaine.
Longtemps. C'est de lire autant de scripts qui vous a donné envie d'écrire des histoires?
Non, c'est l'inverse. C'est parce que j'avais envie d'écrire que je me suis que j'ai cherché à chaque fois des jobs, je dirais, qui me permettraient d'alimenter justement cette envie dans une quête réflexive sur qu'est-ce que c'est que l'écriture, qu'est-ce que c'est que d'écrire, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je fais, voilà.
Mm-hmm.
Donc oui, donc
vous disiez finalement, bon, moi aussi, j'écris bien. Est-ce qu'on est impacté par, vous voyez, par les scénarios des autres, quand on en lit tellement, finalement, et qu'on lit tellement d'histoires?
On est impacté parce que, alors, à plusieurs niveaux, déjà parce que ça oblige, enfin, déjà quand on est déjà de soi dans une démarche d'écriture, d'interroger l'écriture des autres. Ça interroge notre propre écriture, donc à ce niveau-là, on est forcément impacté. Moi, j'ai arrêté de faire ça à un moment donné, même si je le fais encore de temps en temps quand on me le demande pour des amis, réalisateurs, etc., qui me demandent l'avis sur leur script, je le fais encore. Hein. Mais disons qu'il y a un moment où j'ai arrêté de le faire massivement, on va dire, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible et rentrer vraiment à ce point dans les histoires des autres me demandait une énergie considérable. Et il y a eu un moment où j'ai eu besoin, moi, de me concentrer sur ma propre écriture.
Vous êtes une éponge, d'une certaine façon.
Oui, je suis une éponge, oui, vraiment. J'absorbe beaucoup les histoires des autres, ouais.
Vous avez des goûts très pointus sur la littérature. Il y a beaucoup de références dans votre livre que vous citez à la fin. Et vous avez aussi des références très pointues en termes de cinéma. Finalement, vous êtes une double spécialiste.
Moi, je suis très cinéphile et je suis très littéraire. C'est vrai que ce sont deux passions qui sont nées presque au même moment en moi. Bon, d'abord la littérature, ensuite le cinéma. Oui, je suis très cinéphile, oui.
Et très littéraire.
Oui, alors après je suis très littéraire, j'ai fait des études de lettres, j'enseigne aussi le français. Donc je suis très littéraire, je suis très passionnée en tout cas de littérature.
Alors vous avez une autre passion, c'est écrire pour votre petite fille.
Oui. Alors j'ai écrit un
conte pour enfants.
J'ai écrit un album jeunesse,
ouais.
Mais vraiment c'est vrai spécifiquement pour elle, pour ma fille.
Qui s'appelle
Madame Hibou cherche appartement.
D'accord.
Et c'est un album un peu politique qui raconte l'histoire d'une madame hibou.
Pourtant, elle est déjà logée. Hein. C'est une madame hibou qui vit dans un arbre.
Oui, c'est ça, mais un arbre très vétuste. Et elle a besoin d'un nouveau logement.
Et donc, elle va à la mairie de Paris, elle dépose un dossier HLM. Vous le jouez, ce conte ?
Oui, en fait, on a créé un spectacle, une lecture dessinée. Avec de la musique composée par mon époux. Donc moi, je lis le conte, j'adore ça. Alors lire à voix haute, c'est un grand plaisir. J'adore ça. Et mon illustratrice Géraldine Alibeu, qui est une grande illustratrice, qui a écrit de nombreux livres jeunesse déjà et dessiné de nombreux livres jeunesse, dessine en direct et c'est complètement fascinant de la voir.
Et c'est donc jamais le même spectacle à chaque fois ?
Non.
C'est ça qui est génial. Quand vous écrivez un livre, vous faites une lecture à voix haute du livre ?
Alors,
avec ceux avec qui vous travaillez, avec votre éditeur, par exemple, est-ce que vous leur lisez à voix haute ou pas du tout ? C'est un exercice que vous ne faites pas ?
Alors, mon éditrice, je ne lui ai pas lu à voix haute. Il m'arrive parfois de le faire moi, parce que, pour le rythme, bien évidemment. En tout cas, je l'entends, moi, très fort à voix haute dans ma tête, le texte, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est les sonorités, le rythme, les sonorités, la poésie du texte, c'est importante. Donc c'est important de l'entendre, le texte. Pas seulement de le voir aussi, bien sûr, parce que je suis avant tout visuel, mais de l'entendre, ça c'est important.
Alors on parlait du pouvoir des chansons qu'ont les bandes originales de nos vies et l'importance que les chansons ont, finalement, les chansons de notre enfance, de notre adolescence. On va écouter, alors c'est la première fois qu'on écoute sur Beurre FM, j'imagine, monde, qu'on n'a pas souvent écouté The Cure, en tout cas le groupe sur Beurre FM. La chanson s'appelle The Love Cat. Pourquoi cette chanson en particulier ? Vous aimez les chats ?
Alors, j'adore les chats. Vraiment, ce sont des créatures, on a besoin des chats. Voilà, on a besoin de cette beauté-là.
Alors, chanson oui. De 1983 qui, pour la petite histoire, a été enregistrée à Paris.
Like cagey tigers, all we
toujours sur Beurre FM, The Love Cats, 1983. Qu'est-ce que vous aimez dans cette chanson, Caroline?
Sa gaieté. Et c'était un passage du livre qui est très lumineux parce que c'est le moment où la narratrice rencontre l'amour. Et c'est un passage où effectivement, avec l'homme qu'elle rencontre, Orem, ils
voilà,
sont en voiture.
Ça vient d'où son prénom d'ailleurs, Orem?
Bah, elle l'explique même pas. D'accord, elle, okay. dans le livre, mais ce passage où ils chantent cette chanson en voiture. Et ils se rendent compte que finalement ils sont liés aussi par leur goût d'enfance. Ils ont comme ça l'impression de se connaître depuis toujours, puisque ils ont l'impression d'avoir vécu même la même enfance en fait. Et c'est un passage comme ça très. C'est quand même un livre qui est quand même traversé par beaucoup de brûlures et de noirceurs. Mais là, il y a cette lumière là qui.
Il y a des émotions. Il y a des émotions.
Ouais.
Quel est le pouvoir du pardon?
C'est très complexe. Le pardon, et c'est ce qu'elle découvre, Karina, hein, elle y pense pas à pardonner, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à réentendre les prières catholiques. Je sais pas si je peux resituer le contexte.
Ah, mais allez-y, bien sûr.
Karina n'arrive pas, donc son père meurt et elle n'arrive pas à aller à son enterrement. Elle n'arrive pas à faire le voyage jusqu'à Marrakech pour aller à son enterrement musulman, à la mosquée. Elle a vraiment un grand blocage et elle décide quand même de faire
dire
une messe.
Voilà,
son propre enterrement quand même. Voilà, de créer sa propre cérémonie quand même. Voilà, elle a besoin quand même. Genre on a besoin, ce sont des rites de passage, les vivants en ont besoin. Donc elle se dit qu'elle
ça
en a quand même besoin.
Ça fait partie des étapes du deuil.
Voilà, ça fait partie des étapes du deuil. Donc elle en a besoin quand même. Donc elle fait dire elle fait dire une messe pour son père à l'église, hein, puisque bon, c'est la seule religion qu'elle connaît, elle en tout cas. Et il y a un moment où elle réentend le Notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et tout à coup, il y a cette idée de pardon qui entre en elle, où elle se dit, voilà, elle peut pas rester dans la colère. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas rester. On ne peut pas vivre en restant dans la colère, que ce n'est pas possible. Mais en même temps, elle n'a pas la formule magique. Hein, je veux dire, il ne suffit pas de dire à quelqu'un...
Je te pardonne, mais si tu n'as pas fait le travail qui va avec.
Voilà, c'est ça. Et puis d'abord, comment on pardonne à quelqu'un qui n'a jamais demandé à être pardonné en plus, qui n'a jamais reconnu ce qu'il a fait, qui n'a jamais reconnu ses crimes et tout ça est très compliqué. Comment on fait ça? Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une méthode. Est-ce que ce n'est pas juste un mot? C'est trop facile de dire. Donc elle se retrouve et donc elle demande en fait au prêtre qui est là, voilà, je voudrais le pardonner, mais est-ce que je peux le faire? Et le prêtre lui dit quelque chose et lui dit, mais vous savez, ça prend du temps, le pardon. Ça prend du temps. Et il y a un moment où vous verrez que votre père n'était pas seulement... ne peut pas se résumer en fait aux crimes qu'il a commis, qui sont réels et qui ont eu lieu vraiment, mais ce n'est pas seulement ça.
En tout cas, merci du temps que vous nous avez accordé. Merci pour cette discussion. C'était un beau moment. Vous pourrez la réécouter en podcast sur beurrefm.net et puis vous aurez la captation de cet entretien sur la chaîne YouTube. Caroline Dorcafenel, votre deuxième livre vient de sortir, s'appelle Tempête et brouillard. Tenez, je vous le donne. Comme
merci.
Ça, vous pourrez le montrer à la caméra. Il est rouge comme le nom de cette collection qui vous abrite, Ruby, et passez un très très bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.